Nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 25 et au verset 19. Le livre de la Genèse, chapitre 25, verset 19. Voilà, je vous conseille de venir au culte, aux réunions, avec votre Bible. Et si vous ne possédez pas de Bible, eh bien, dès la fin du culte, vous pouvez vous en procurer un exemplaire, au comptoir de la librairie. Parce que c'est bon de lire ensemble la parole de Dieu. Vous voyez ? Déjà, ça permet de vérifier que le prédicateur ne dit pas de bêtises et que ce qu'il raconte, c'est conforme à ce qui est écrit. Hein ? Voilà. Genèse chapitre 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit, entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On lit à présent au chapitre 32 et au verset 24. Où il est dit ceci, chapitre 32, toujours de la Genèse, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Amen. Et puis dans l'épître aux Hébreux, voilà, l'autre extrémité de la Bible, l'épître aux Hébreux, le chapitre 12 et le verset 15, pardon, où il est dit ceci, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. » Voilà, je voudrais ce matin vous parler d'Ésaü. Et puis peut-être dans une autre occasion, Nous parlerons de Jacob, son frère, quoique nous dirons aussi quelques mots à propos de Jacob. Alors, quand la maman s'est retrouvée enceinte, Rebecca donc, il s'avère qu'il y avait là, en son sein, des jumeaux, et que les jumeaux, déjà dans le ventre de la mère, ils étaient en opposition, et ils se heurtaient dans son sein. Et alors, elle est consulter Dieu, en demandant qu'est-ce qui se passe. Et voilà que la révélation lui a été apportée, n'est-ce pas, disant que deux nations étaient dans son sein, et que parmi ses deux frères, ses enfants qui allaient naître, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et effectivement, quand on considère ce qui s'est passé par la suite, c'est bien comme ça que les choses se sont déroulées. Ésaü, l'aîné en l'occurrence, fut assujetti au cadet Jacob. Et non seulement ce fut vrai pour les deux frères, mais pour leurs descendants. Alors, il y a deux raisons à cela. D'abord, la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Quoique, même si Dieu fait ce qu'il veut, il ne fait rien qui soit contraire à sa sainteté et à sa justice. Mais il est souverain quant à la dispensation de ses grâces. Mais voyez, l'autre raison, c'est que la souveraineté de Dieu n'exclut pas la responsabilité humaine. Et si Jacob a eu la prééminence, malgré le fait qu'il soit né le second, eh bien c'est tout d'abord parce que Ésaü, son frère aîné, a méprisé la bénédiction. Voilà, il a méprisé la bénédiction, et nous allons nous pencher sur ce fait. Tandis que Jacob, malgré ses nombreux et grossiers défauts, hein, eh bien c'était un homme qui appréciait la bénédiction de Dieu. Et ça se démontre dans ce texte où il nous est dit que lorsque Dieu l'a affronté dans cette rencontre très particulière, là, Jacob s'est écrié en s'adressant au Seigneur, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et moi, je trouve que ça, c'est une parole formidable. Voyez. Alors, ce matin, eh bien, je voudrais vous poser la question suivante, réfléchissant en apportant une réponse à cette question, qui est la suivante. Aimez-vous la bénédiction de Dieu? Aimez-vous la bénédiction de Dieu? Et non seulement aimez-vous la bénédiction de Dieu, mais aimez-vous le Dieu de la bénédiction? Le Dieu de la bénédiction. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, bénir? J'avais remarqué que c'est un verbe que nous employons souvent dans nos prières, dans nos expressions, bénis-moi Seigneur, bénis un tel, bénis un autre, merci parce que tu m'as béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Bénir, très exactement, ça veut dire bien dire, ou dire du bien. Et ce qui est formidable, c'est que, à l'égard du Seigneur, l'Écriture dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est-à-dire que quand Dieu bénit, eh bien, il fait du bien. Elle est en mesure non seulement de prononcer, de souhaiter du bien en notre faveur, mais elle est en mesure, ce bien, de l'accomplir. Et vous connaissez tous ce verset de la Bible qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et le texte ajoute, et c'est peut-être étonnant cela, le texte ajoute, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors on pourrait dire, mais Seigneur, c'est vrai que la bénédiction de Dieu, elle enrichit, mais quand même, depuis que je suis converti, je suis passé par pas mal d'épreuves, et parfois des épreuves rudes, et malgré ce que ta parole déclare, dans diverses circonstances de ma vie, force m'est de constater que j'ai connu le chagrin, la souffrance, la douleur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que certes, il y a les épreuves, mais ces épreuves, aussi dures soient-elles, ne peuvent pas nous ravir la bénédiction de Dieu si nous restons attachés au Seigneur. L'Écriture dit dans l'Épître aux Romains que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, nous priver de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, je sais que Dieu m'aime et que mes mains, il se tient à mes côtés. Alors, revenons à Ésaü, n'est-ce pas? Dans ce texte que nous avons lu il y a quelques instants, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Ésaü était un profane. Est-ce que c'est ça, un profane? Un profane, c'est pas forcément quelqu'un qui est pire qu'un autre. Un profane, c'est pas forcément un gangster, un voyou, un alcoolique, un délinquant, un adultère, un pervers, un voleur, un assassin, ou que sais-je encore. Non, un profane, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt particulier pour la bénédiction de Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Et ce fut le cas d'Ésaü. Et on le voit dans cette espèce de troc qu'il a réalisé avec son frère Jacob. Lui cédant son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Bon d'accord, le petit salé aux lentilles c'est pas mauvais, mais quand même. Lui cédant le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ça mérite quelques mots d'explication, cette affaire de droit d'aînesse. En ce temps-là, dans une fratrie, l'aîné de la famille recevait par rapport à ses frères la double part d'héritage. C'est-à-dire qu'il avait le double par rapport aux autres. Alors là, nous sommes dans une famille d'éleveurs, donc ça suppose qu'il allait recevoir le double de cheptel par rapport à son frère, normalement. Et puis aussi le double de richesse, car le père Isaac était riche en or, en argent et en bien d'autres choses. Mais il y avait plus que cet avantage matériel, voyez, dans le droit d'aînesse. Nous sommes là au sein de la famille d'Abraham. Et la parole de Dieu, dans les chapitres qui précèdent, nous apprend que Dieu a contracté, de sa propre initiative d'ailleurs, une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, Dieu promettait à Abraham et à ses descendants sa faveur, sa bénédiction. Et même Dieu dira à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. De telle sorte que toutes les familles, tous les peuples, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, en ta descendance. Et voyez-vous, dans ces promesses, dans cette promesse-là, il y avait déjà l'annonce prophétique de la venue de Jésus. Parce qu'au travers d'Abraham et de ses descendants, c'est Jésus qui est venu au monde. C'est Jésus qui est apparu sur la terre des hommes. Et effectivement, par la foi en lui, tous les peuples et toutes les nations de la terre ont part, en tout cas pour ceux qui croient, à la bénédiction de Dieu. Et puis, dans cette part d'héritage, de droit d'aînesse, il y avait aussi la promesse de recevoir la terre de Canaan en propriété perpétuelle. Eh bien, c'est tout ça qu'Ésaü a méprisé. C'est tout cela qu'il a galvaudé, c'est tout cela qu'il a dilapidé, c'est tout cela qu'il a échangé, entre guillemets, contre un plat de lentilles. C'est à tout cela qu'il a renoncé. Et ce fut une folie, voyez. Ésaü, c'était un profane. La bénédiction de Dieu, ça lui importait peu. C'était simplement les choses de la terre qui l'intéressaient, voyez. Cet état d'esprit profane se vérifie chez cet homme par plusieurs éléments. Le texte nous dit ceci, c'était un habile chasseur, un homme des champs. Ésaü était très actif. Il était investi dans toutes sortes d'occupations terrestres, charnelles, humaines, plutôt que de rechercher les valeurs spirituelles. Et il y a là une mise en garde qui doit nous être adressée à nous, chrétiens qui vivons au 21e siècle. Il n'est pas question d'être oisif. La parole de Dieu dénonce ceux qui s'occupent de futilité. Vous voyez, tout chrétien que nous sommes, des valeurs comme le travail, les responsabilités familiales, le fait d'assumer correctement bien l'aspect matériel de l'existence. Tout cela, ça compte, ça, son importance. Nous avons droit aussi, en tant que chrétiens, à des loisirs sains, S-A-I-N. Mais nous vivons dans une société qui nous sollicite de toutes sortes de manières et qui veut nous imposer toutes sortes, nous proposer, même nous imposer toutes sortes d'activités, d'occupations, de distractions, de centres d'intérêt, de plaisirs variés, de loisirs divers, qui voudraient nous accaparer et nuire à la qualité de notre relation avec Dieu. Nuire à la qualité de notre relation avec Dieu. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Et la question qui se pose, c'est est-ce que dans notre vie, en dehors du culte du dimanche matin, est-ce que dans notre vie, frères et sœurs, il y a un temps pour Dieu? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a un temps pour Dieu? Est-ce qu'il y a un temps pour Dieu? Ou alors est-ce que je suis perdu, je suis envahi comme Ésaü était par toutes sortes d'occupations de diverses, variées, qui font que, eh bien souvent je me plais à dire je n'ai pas le temps, mais je n'ai pas le temps d'ouvrir la Bible. Je n'ai pas le temps de fléchir le genou devant Dieu pour le prier, pour l'invoquer, pour le chercher. Parce que je suis débordant d'activité. Si c'est le cas, si vous n'avez plus de temps pour Dieu, solennellement, je vous dis, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Votre avenir spirituel, eh bien, est sujet à caution. Et peut-être, si vous en restez là, se posera dramatiquement pour vous la question de votre avenir éternel. Alors, si vous réalisez que vous n'avez pas, vous n'avez plus, ou peut-être tout simplement plus assez de temps pour Dieu, prenez ce matin, d'ailleurs, il y a eu cette parole dans un don prophétique, la résolution de changer d'orientation, de changer de point de vue. Et prenez la résolution, je crois qu'on peut prendre des résolutions et les tenir devant Dieu, alléluia, de dire à partir de maintenant, Seigneur, avec son secours et ta grâce, je vais prendre du temps, un temps, pour toi. Même si je suis envahi par mille et une occupations qui d'une certaine manière sont légitimes, ne sont pas péchés en soi, mais je vais prendre du temps pour toi. Et je vais savoir de temps en temps dire non! Non à telle activité! Non à telle autre qui dévore mon temps et qui me ravisse le temps qui doit être consacré à Dieu. C'est là ma priorité. Et c'est là ce qui va me permettre de rester fermement attaché au Seigneur. Voyez-vous, il a échangé, Ésaü, la bénédiction pour un plat de lentilles vite avalé. Il privilégiait ses appétits charnels, immédiats, plutôt que ses intérêts spirituels, durables et permanents. Et parfois forcé de constater que c'est ainsi que ça se passe. Dans la vie de certains croyants, oh c'est vrai, un jour ils ont pris le baptême, ils se sont engagés, ce jour-là étant plongés dans le bain baptismal à suivre le Seigneur, à privilégier les affaires, les intérêts spirituels, plutôt que les choses de la vie courante. Mais depuis le temps a passé, et cette décision, il n'en reste que des souvenirs. Pourtant, et nous connaissons ce verset qui nous dit que les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles seules sont éternelles. Vous voyez, il y a des versets comme ça, qu'on les connaît. Je les cite et je vois certains qui les citent, même qui me précèdent dans ma citation, parce qu'on connaît ces textes. Mais il ne faut pas seulement les connaître, les répéter comme un slogan évangélique facile, que l'on met à toutes les sauces. Mais il faut vivre selon ces principes. Si c'est vrai, mes amis, qu'il y a un ciel à gagner, tout au moins recevoir en partage. Si c'est vrai qu'il y a un enfer à éviter, alors, mes amis, il faut privilégier ou non
les valeurs spirituelles
plutôt que les valeurs terrestres et charnelles. Il faut dans notre vie établir les bonnes priorités. Les bonnes priorités. Il y a des moments où nous avons des décisions à prendre, et quand nous avons de graves décisions à prendre, y compris dans le domaine matériel, il faut se poser les bonnes questions, prier, interroger Dieu, chercher son conseil, consulter sa parole, qui, dans la plupart des cas, eh bien, contient des indications précises quant à ce que nous avons à faire devant telle ou telle situation, ou quant à ce que nous avons à ne pas faire. Tout cela afin de ne pas commettre d'erreurs préjudiciables à notre équilibre personnel, familial et spirituel. Il y a bien des années de cela, lorsque nous servions avec Hélène le Seigneur dans le sud-ouest de la France, nous avions dans l'église un couple, ils étaient papa et maman de deux enfants, et c'est vrai, ils vivaient dans une cité HLM, c'était pas formidable, mais cette cité HLM était à proximité de l'église, voyez, si bien que le papa, la maman, tout au moins quand leur vie professionnelle leur permettait, accompagnaient les enfants, étaient régulièrement à l'écoute de la parole de Dieu, le dimanche, certes, au culte, mais aussi le dimanche après-midi, et puis même en semaine, et c'était bien comme ça. Et puis, ils ont formé un projet qui n'était pas en soi un mauvais projet, c'est de faire construire une petite maison. Alors si je dis ça, c'est si vous avez un projet immobilier, hein, c'est pas pour vous taper dessus, mais il y avait un problème, voyez. C'est qu'ils ont acheté un terrain à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de la ville. Et j'ai osé rien dire, peut-être ai-je eu tort, mais j'ai senti que ça pouvait être un piège, un risque, effectivement. Ils ont construit leur petite maisonnette avec tout ce qu'il fallait, le jardin autour, c'était très agréable. Mais la distance était là, de telle sorte que, on a continué à les voir, pendant un temps tout au moins, mais moins souvent, moins fréquemment, parce que la distance faisait que les allées et venues, c'était difficile, quoi. Et ça n'a pas été le seul élément, mais le fait qu'au bout de quelques temps, mes amis, le foyer a volé en éclats. Parce que quelque part, les valeurs matérielles ont pris le pas sur les valeurs spirituelles. Je crois que ce qui a manqué à ce frère, cette sœur, c'est un petit peu de réflexion. C'est un petit peu se placer devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? J'ai un projet, c'est pas interdit. Mais qu'est-ce que tu en penses? Montre-moi, éclaire-moi, parle-moi. Et je crois que lorsque nous sommes sincères devant le Seigneur est capable de mettre sa pensée dans notre esprit. Lorsqu'il nous a donné sa pensée, encore faut-il être prêt à la mettre en pratique. Mais pour ces deux-là, en tout cas, tel ne fut pas le cas, et ce fut dramatique. Et puis, le fait qu'Ésaü, eh bien, était un profane, se révèle aussi par son mariage, son mariage. Dans ce livre de la Genèse, où nous avons lu tout à l'heure, il est question, là, au chapitre 26, on n'a pas lu ça tout à l'heure, je le lis avec vous, ou pour vous, au chapitre 26, au verset 34, écoutez bien. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmath, fille de Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Le fait qu'il était un profane s'est révélé, n'est-ce pas, dans cette réalité que, eh bien, il a contracté mariage avec des païennes. Des femmes, membres des peuples de Canaan, et les peuples de Canaan, on le sait, étaient des peuples idolâtres. Mais, je ne sais pas, entraînée, subjuguée par l'amour, peut-être avait-elle une jolie silhouette, eh bien, il n'a pas hésité à contracter mariage avec ces filles qui n'avaient aucun attachement au Dieu de ses pères. Et cela a porté du trouble, de l'amertume au sein de la famille. Voyez, ça nous enseigne quelque chose, ça. Et je m'adresse peut-être plus particulièrement aux jeunes, aux célibataires, en dénonçant le danger des mésalliances, des attelages disparates. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 14, l'Écriture dit ceci, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le joug, vous savez, c'est cette pièce de bois. Maintenant, on a des tracteurs, on a des machines formidables dans le monde de l'agriculture. Mais autrefois, pour labourer, on attelait ensemble deux bœufs ou deux chevaux pour que eh bien, les deux animaux, d'un commun effort, puissent tirer la charrue. Ils étaient liés, associés l'un à l'autre par un joug que l'on a posé sur leur encolure. Et la parole de Dieu stipulait qu'il ne fallait pas associer, par exemple, un bœuf et un mulet. Ça ne marchait pas. Vous voyez, parce qu'il y avait un déséquilibre. Et en appliquant ça au domaine sentimental, eh bien, on peut dire que pour s'unir dans les liens du mariage, il faut être d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les valeurs spirituelles. Les gars, les filles, si vous prenez la responsabilité de vous marier, vous chrétiens, avec quelqu'un qui ne l'est pas, ou qui n'est chrétien que de nom, vous avez de fortes chances, ou plutôt de fortes malchances, d'aller tout droit à la catastrophe. Ce fut le cas pour Ésaü. Et cela a révélé qu'il était d'un esprit profane. Il est vrai, qu'un jour, vous lirez la suite des chapitres de ce livre de la Genèse, un jour, devant son père Isaac, Ésaü a reconnu son erreur. Il s'est mordu les doigts, si je puis dire, d'avoir ainsi, pour un plat de lentilles, vendu son droit d'aînesse, méprisé la bénédiction de Dieu. Oui, mais le texte nous dit, nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, que son repentir ne put avoir aucun effet. Pourquoi? Parce qu'il venait se repentir trop tardivement. Vous savez, un jour, nous comparaîtrons devant notre Père Céleste. Vous savez ça? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, c'est écrit. Et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et si nous faisions, hélas, d'aussi mauvais choix que ceux qu'a fait Ésaü, un jour devant le Père Céleste, nous serions remplis de confusion et nous subirions les conséquences fâcheuses, désastreuses même, de notre esprit profane. Ainsi, mes frères et sœurs, n'imitons pas le triste exemple d'Ésaü qui, pour un plat de lentilles, a méprisé l'héritage. Parce que, tiens, à propos d'héritage, à nous aussi un héritage est promis. Alléluia. Un héritage est promis. Parce que nous sommes devenus fils et filles de notre Père Céleste. En effet, en Jésus, nous dit l'Écriture, nous avons été adoptés. Laissez-moi vous lire ce texte de l'Épître aux Galates, et après tout, vous pouvez le lire avec moi, au chapitre 4, au verset 4, où il est dit la chose suivante. C'est un passage magnifique. Il est écrit ceci, chapitre 4, verset 4 de l'Épître aux Galates. « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Voyez, l'adoption divine dont nous sommes l'objet est une des composantes, est un des éléments du salut. Quand Dieu nous sauve, il nous pardonne, il nous régénère, il nous fait naître de nouveau, il nous justifie, il nous déclare juste à ses yeux, il nous rachète de notre ancienne manière de vivre. Mais également, quand Dieu nous sauve, il nous adopte, il nous inclut dans sa famille, voyez. Et ça, le texte le souligne d'ailleurs, c'est aussi le résultat du sacrifice de Christ qui a donné sa vie sur la croix. En Jésus, nous sommes devenus, c'est quelque chose, enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, dit que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Enfants de Dieu. C'est d'autant plus remarquable qu'autrefois, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 8, nous avions pour père le diable. Vous savez ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'avant que nous ne connaissions le Seigneur comme notre sauveur, nous vivions tout entier sous la coupe de Satan, sous son influence néfaste. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions obscurcis, enténébrés. Notre intelligence était loin des choses de Dieu. Nous avions méprisé les grâces du Seigneur. Et puis un jour, eh bien, le Seigneur a su nous conquérir. Il nous a sauvés, il nous a adoptés. Il y a eu un changement de paternité qui s'est opéré par la seule grâce de Dieu. Et nous sommes devenus les héritiers de Dieu. Amen. Les héritiers de Dieu. En quoi consiste cet héritage? C'est un héritage céleste. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 3, voici ce que je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous avez le droit de dire amen. Vous avez le droit et le devoir de vous réjouir de votre salut. De dire au Seigneur que ce salut vous est extrêmement précieux. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ce qu'il soit venu un jour me chercher. Alléluia. De ce qu'il soit venu à ma rencontre alors que je n'étais encore qu'un tout petit enfant. Et je bénis le Seigneur parce que sa fidélité s'est manifestée tout au long des années. Je dois confesser que je ne lui ai pas toujours été fidèle. Mais lorsque même je me suis éloigné, il m'a manifesté sa grâce pour me ramener dans ses voies. Je suis heureux d'être son enfant. Je suis heureux d'être sauvé. Je suis heureux d'avoir part à l'héritage céleste. Voyez, la vie éternelle, mais aussi les avantages, les privilèges, les richesses, les gloires, les prérogatives que nous connaîtrons dans le royaume des cieux, qui dépasseront certainement tout ce que nous pouvons imaginer actuellement, n'est-ce pas? La première épître de Jean, chapitre 3, au verset 1er, nous dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Le voilà l'héritage. La voilà la vraie richesse. Je n'ai que faire des choses de la terre. Elle nous file entre les doigts, n'est-ce pas, comme le sable de la plage lorsque nous le serrons entre nos mains, nous file entre les doigts. Non, mes amis, ça ne vaut rien ce qu'il y a ici-bas. C'est passager, c'est trompeur, c'est illusoire, c'est ton valeur spirituelle. C'est le ciel qu'il faut chercher, qu'il faut désirer, qu'il faut obtenir un héritage céleste. Il est vrai qu'actuellement, bien qu'étant enfant de Dieu, nous subissons, je l'ai déjà dit tout à l'heure, diverses épreuves. Mais voici ce que à l'égard de ces épreuves, l'apôtre Paul nous dit, n'est-ce pas? Il nous dit dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, nos légères afflictions du moment présent produise pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Ailleurs, il est dit, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17, que les afflictions présentes, les douleurs présentes, les combats présents, les épreuves actuelles ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est là notre consolation. C'est là notre encouragement. Amen. Et vous qui êtes éprouvés, nous qui sommes éprouvés, parce qu'un jour ou l'autre, ça nous arrive tous. Hein. Vous savez bien qu'il y a des moments dans la vie où on a l'impression que ça dégringole de tous les côtés, n'est-ce pas? Quand il y a quelque chose qui finit, il y a autre chose qui recommence, c'est pas vrai? Et on se dit, mais c'est terrible, mais ça n'arrêtera jamais, mais qu'est-ce que c'est, mais j'en sors pas. Mais voyez, dans ces moments, là où notre cœur est chaviré, il faut puiser notre encouragement, notre consolation. Dans ces faits, tout ça n'est pour que pour un temps. Mes souffrances, mes douleurs, aussi intenses soient-elles, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est super d'être sauvé. C'est formidable d'être un enfant de Dieu. D'autre part, je vais terminer par là. D'autre part, dès à présent, voyez, dès à présent, nous recevons, comment on pourrait appeler ça, les acomptes de notre héritage futur. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, pour vous expliquer ce que je veux dire, on va lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 13. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Il est dit ceci, « En lui, Jésus, en lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel Saint-Esprit est un gage ou un acompte de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Un sceau, une marque apposée sur un document ou sur un objet permet d'identifier le propriétaire de l'objet en question et permet aussi d'attester l'authenticité du document en question. Si vous regardez votre carte d'identité ou votre permis de conduire, vous verrez qu'il y a un sceau, le sceau de la République. Ça veut dire que ce document, permis de conduire, carte d'identité, n'est pas un faux, qu'il est authentique. Il est authentifié, il est démontré, vérifié, attesté comme étant authentique et exact parce qu'il a été scellé par le sceau républicain. Eh bien, mes amis, nous sommes aussi scellés, pas par le sceau républicain, par l'Esprit de Dieu. Le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la preuve, c'est la démonstration, c'est l'affirmation, c'est la garantie que nous sommes d'authentiques enfants de Dieu et que nous recevrons, si nous persévérons dans les voies du Seigneur, l'héritage promis. Amen. D'ailleurs, l'Épître aux Romains nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il y a parfois des gens qui nous disent, mais vous êtes trop sûrs de vous, vous les chrétiens évangéliques, vous êtes trop affirmatifs. Comment pouvez-vous dire, je sais que je suis sauvé? Mais non, on ne peut pas le savoir, c'est Dieu qui le sait, et on ne le saura, sauvé ou perdu, qu'au dernier moment. Non, on peut savoir dès à présent si on est sauvé. Comment vous le savez? Je le sais, parce que Dieu me l'a dit. Alléluia. Oh, je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas vu d'ange, il n'y a rien d'étrange qui s'est produit. Mais là, dans mon cœur, la présence du Saint-Esprit qui est venu habiter en moi depuis que j'appartiens au Seigneur affirme à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas du bluff, c'est pas de l'imagination, c'est pas du baratin religieux, c'est pas du blabla évangélique, c'est une certitude qui m'anime. Ça n'est pas de l'autosuggestion, c'est Dieu qui par son esprit, n'est-ce pas, atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu et qu'à ce titre-là, je suis son héritier, alléluia. Et cet héritage-là, moi je veux le conserver, amen. Je veux le garder, voyez. Je veux être comme Jacob. On parlera peut-être de Jacob une autre fois. Il était plein de défauts, ce garçon. Et il a fallu que Dieu lui explique le tarif. Il a fallu que Dieu le corrige. Il a fallu que Dieu le transforme. Et il l'a fait. Mais il y avait chez Jacob quelque chose d'excellent. Cette phrase, moi j'aime ça. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Il appréciait l'héritage. Apprécions l'héritage, mes amis. Ne dilapidons pas notre héritage, mais conservons-le précieusement. Ne soyons pas des profanes, mais des hommes et des femmes qui apprécient, qui cherchent, qui désirent au plus haut point la bénédiction de Dieu avec tout ce qu'elle se représente. Que le nom du Seigneur soit loué. Prions-le quelques instants. Notre Père, nous te rendons grâce. Te disons merci pour cet héritage glorieux